Alors, la bibliothèque in situ se trouve aujourd'hui en ce 10 mai 2017 au Conservatoire Henri Dutilleux de Belfort pour un petit entretien avec Stéphane de Gérando. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Donc, vous êtes parmi les artistes invités de l'exposition Le Champ des Terres qui se trouve à Bourogne. Comme nous n'avions pas pu réaliser ce petit entretien qui débute là à l'instant en nos murs à Bourogne, nous en profitons donc pour vous voir dans votre salle de travail ici au magnifique Conservatoire Henri Dutilleux. Alors peut-être juste en un mot, c'est difficile de se présenter en un mot, mais peut-être voilà, pour un auditeur de ce petit blog qui ne vous connaîtrait pas, qui ne serait pas encore venu voir l'exposition, essayez de présenter vos activités qui sont nombreuses, enseignants, compositeurs, voilà, en quelques mots.
En quelques mots, eh ben, on va dire que j'ai trois formations différentes, une formation de chercheur universitaire, que j'ai poussé jusqu'au bout des études avec une habilitation à diriger les recherches. J'ai une formation de compositeur à l'origine, là aussi assez longue, puisque j'ai fait toutes les études possibles au Conservatoire supérieur national de Paris, avec notamment un troisième cycle, on y a pris un troisième cycle, et des études plus spécialisées en informatique musicale à l'IRCAM, ce qui me donne un panel assez large.
Pour mener vos activités aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. Merci.
Alors justement, j'avais envie de démarrer en lisant un petit fragment d'un texte que vous nous avez transmis pour, dans la préparation de cette exposition. Alors il faut dire d'ailleurs que donc, le titre c'est bien Le Champ des Terres, et donc nous montrons la version installation, et autant le dire tout de suite, qui va être aussi montrée dans une formule en live, sous forme de... Je ne sais pas comment qualifier de concert, en tout cas en plein air, lors du FIMU dans les prochains jours.
Quoi. Voilà.
C'est important de le préciser et on pourra en dire un mot peut-être tout à l'heure. Donc je lis le petit texte que l'on a reçu. Un jour viendra, sans vers ni sans, qui sait joindre la terre. Cette épitaphe vient conclure la fin de Memory Entropic Threshold, un des nombreux satellites vidéo du labyrinthe de temps présent dans la création de ce cycle 8. La terre chante ici sous ses formes, toujours surprenante, tour à tour matière photographiée et transfigurée par l'ordinateur, milliers de particules synthétisées, sonores et visuelles, formant des poussières d'étoiles, compositions telluriques et protéiformes des énergies, ensembles sphériques et métamorphoses spatiales, phénomènes archétypaux et sentiments de dislocation à de multiples échelles. Donc là, si j'ai pris ce temps de petite lecture en introduction, c'est pour vous demander finalement... est-ce que ces quelques lignes, évidemment, ne décrivent-elles pas tout votre travail par rapport à cette pièce? Et peut-être essayer aussi d'expliquer, encore une fois, puisque c'est ça la difficulté lorsqu'on est dans la version auditive de l'appréhension d'un travail, c'est qu'on n'a pas le travail sous les yeux. Et pour, encore une fois, le visiteur qui viendrait à l'espace multimédia Gantner, est-ce que vous pouvez décrire, d'ailleurs, on est nous-mêmes ici dans un dispositif dans lequel on a recréé, on peut dire, une réplique de ce dispositif. Et donc, pouvez-vous le décrire, le présenter et montrer en quoi, justement, quelle est la part de la présence de l'informatique musicale dans cette composition en particulier. Voilà, ça fait une question très, très ouverte, mais si vous pouvez y répondre de manière là encore simple.
Oui. Alors, le lien à la Terre, il est d'une certaine manière transfiguré. C'est-à-dire, bien sûr, on peut trouver toujours des analogies, des poussières d'étoiles, des photographies de la Terre recomposées, et ainsi de suite. Mais je m'attache plus à la question poétique, à la question des analogies, à la question, finalement, d'un sens profond qui nous permet d'être en lien avec les éléments simples, les éléments de la vie, les éléments qui nous constituent d'une certaine manière. Et en cela, ça nous renvoie à un monde intérieur. Les analogies directes, elles me semblent assez... je m'en méfie un petit peu, si je peux me permettre. Je suis plus dans une... Alors, le mot est peut-être un petit peu pompeux, mais dans une notion de transfiguration et d'aborder des mondes intérieurs qui seraient liés à la question du sens, à la question de la relation, à la question de l'origine. C'est tous ces aspects qui me font penser notamment à la Terre.
Très bien. Alors, on va poursuivre de nouveau en convoquant un autre élément qui provient de vous, hein, puisque évidemment dans toute œuvre il y a la création en tant que telle, mais il y a aussi le discours et tous les écrits qu'on peut produire pour accompagner la présentation de cette œuvre. Et là encore, je cite un fragment de ce dossier que vous nous avez transmis pour appréhender votre travail, et je trouve que c'est encore un élément clé, un thème clé dans votre démarche. Je lis donc. Cette esthétique composée, recomposée du chaos, offre la possibilité de découvrir des dimensions cachées et enchevêtrées. L'œuvre se croise, alors, s'entrecroise et se décroise, fragmentation sonore et visuelle. Alors j'ai trouvé que ce fragment, si je l'ai isolé, c'est parce qu'il définissait bien ce que génère votre œuvre, et en tout cas, moi, ce qui me concerne en tant que bibliothécaire, je trouve que c'est un mot tellement riche, la notion d'entrecroisement, puisque dans la pensée, c'est ça que tout individu peut être capable de faire, c'est-à-dire de convoquer à la fois sa mémoire personnelle pour entrecroiser à la fois des souvenirs, des lectures, des sons, et puis après pour, comme on dit, produire de la pensée. Mais donc, là encore, est-ce que vous pouvez réagir à ce fragment-là par rapport à ce que vous nommez esthétique composée, recomposée du chaos?
Oui, je crois que vous avez cité des mots essentiels dans mon travail, je m'en suis rendu compte très progressivement, hein, cet attachement à une forme chaotique qui aujourd'hui prend des définitions diverses, dont une définition labyrinthique, rhizomatique, dirait Deleuze. Alors ça remet en cause d'une certaine manière les liens avec nos notions de relations un peu classiques liant la cause et l'effet, par exemple. Mmh. Là aussi, on parlait de la thématique de l'exposition. Parfois, je ne suis pas attaché à des relations directes. Ça aussi, ça m'importe assez peu. Et donc, il y a une double dialectique qui s'instaure entre la position du hasard dans l'œuvre, qui est un hasard composé, ça je me suis rendu compte que pour travailler le chaos, il fallait finalement le composer, et d'un autre côté, la dialectique d'un déterminisme plus classique. Et c'est ce double enjeu du déterminisme et du hasard qui définit, en fait, pour moi, actuellement, ce chaos, avec, vous parliez des nouvelles technologies, des très grandes, par exemple, le type d'accélération, le fait d'aborder un univers qui est polysensoriel, le fait de recombiner à certains niveaux sans qu'on s'en aperçoive vraiment, le fait de changer très brutalement de support pour que justement on soit dans des formes d'imprévisibilité qui fait que les relations ne se font pas, parce que là en l'occurrence, hein, on m'a toujours moi appris à concevoir des relations. En pédagogie, on nous force d'une certaine manière à concevoir des relations. Aujourd'hui, je suis même pédagogiquement très attaché au fait de réfléchir à la création de non-relations, ce qui est extrêmement compliqué et d'une richesse inouïe.
C'est ça. Et qui serait, je dirais, tout aussi productive que ces relations construites.
Oui, alors le terme même de production, du coup, devient... voilà. Se traduit sous forme d'interrogation plutôt que d'affirmer une sorte de réponse à travers ce terme.
D'accord, alors poursuivons avec encore un élément relevé dans la présentation de cette installation, dans laquelle il est indiqué œuvre numérique contrôlée par ordinateur. Alors là aussi, je serais assez curieux que vous explicitiez cette notion de contrôle par ordinateur. Bon, évidemment, on sait que beaucoup des œuvres numériques sont construites, réfléchies, pensées à partir d'un algorithme, d'un programme. Mais voilà, si je peux vous demander de commenter cette expression-là, contrôlée par un ordinateur.
Oui. Voilà. Alors ça, c'est très important dans le labyrinthe du temps, dans fragmentation. Il y a plusieurs types et plusieurs niveaux de contrôle. Il y a le niveau d'invention, je dirais, même de la matière même, sonore ou visuelle. Ça va jusqu'au contrôle, par exemple, des différentes sinusoïdes que l'on peut intégrer ou produire pour créer un son inouï. à un macro-contrôle, hein, on serait presque à l'échelle cosmologique dans une vision, dans une tridimensionnelle des dimensions, qui est plus la façon de contrôler le temps dans sa très grande dimension pour justement faire en sorte que tous les supports, tous les types d'interventions, ça peut être des mouvements dansés ailleurs, un mouvement théâtral, la musique, soit constitué de cette question du non-rapport, de l'imprévisibilité, et l'ordinateur est absolument indispensable, jusqu'au calcul des distances en temps différé, par exemple. Il y a des fichiers qui ont été calculés pendant des jours et des jours qui ne peuvent pas être traduits en temps réel, sur des notions de distance avec des combinatoires, tout ça en relation avec des scientifiques très très pointus dans des domaines spécifiques, du centre à l'énergie atomique, des informaticiens, donc il y a une véritable aussi réflexion de recherche.
Et avec une dimension, le mot est peut-être banal à citer ici, mais vraiment véritablement transdisciplinaire, c'est-à-dire avec différents champs, la musique, puis les domaines que vous venez de citer.
Tout à fait. L'image, le théâtre, la danse, la musique, tout ça est réuni dans une même action, avec aussi l'idée, donc on a bien compris la fragmentation de la mémoire, et aussi l'idée d'arriver un peu comme en physique à la problématique d'une théorie du tout, dans le sens où il n'est pas question que systématiquement une musique accompagne par exemple une image accompagne une musique, mais qu'on crée des complétions au niveau des sciences cognitives, de ce qu'on peut percevoir, et donc on s'attaque à l'idée d'un métalangage, c'est-à-dire d'un processus formel, symbolique, qui dirige et contrôle les divers... les divers aspects de l'écriture polysensorielle, exactement.
Alors maintenant, venons-en à cette dimension aussi qui est clé justement dans cette démarche de fragmentation, et en particulier donc de ce cycle 8 du labyrinthe du temps, c'est que c'est une démarche qui se nourrit au gré de votre processus de création, et vous demandez justement, puisqu'en là encore, j'ai pu voir dans le dossier que vous nous avez transmis, qui est vraiment très complet avec beaucoup d'informations, une vue de cette même installation aux abattoirs de Toulouse en 2007. Et donc j'avais envie de vous demander, à la fois vous, dans le travail, dans la composition, qu'est-ce qui a changé, puisqu'on est pile 10 ans après, entre cette monstration à Toulouse et celle-ci que l'on montre donc à Bourgogne, à la fois dans les divers cycles, et aussi vis-à-vis du spectateur, visiteur, regardeur de cette œuvre, entre un spectateur qui l'aurait découverte à Toulouse il y a 10 ans et quelqu'un qui la découvre aujourd'hui. Voilà, comment s'est fait le chemin, voilà.
Votre question était très très intéressante, car c'est une œuvre en développement permanent, c'est une œuvre qui ne peut pas s'inscrire dans un mois de développement, dans une année, et ça c'est pour moi aussi un nouvel enjeu. Écrire sur une dizaine d'années, une quinzaine d'années, voire beaucoup plus encore, puisque pour l'instant, elle pourrait être en rétraction, elle pourrait, entre guillemets, s'autodétruire et se refermer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis tout simplement, pour répondre plus précisément à votre question, passé d'un stade fini à un stade infini, que je commence à toucher, et mais très précisément avec des processus qui se régénèrent en soi, dans le sens où on quitte un peu les fixités qui peuvent être même proposées dans le labyrinthe pour aboutir à des purs algorithmes qui font que l'œuvre est là, pour le coup, toujours différente.
Très bien. Alors maintenant, venons-en à la partie justement qui est le futur et le futur proche, puisque début juin va être donné pendant le FIMU, donc on le répète, Festival International des Musiques Universitaires de Belfort, donc une ville dans laquelle vous êtes maintenant enseignant depuis quelques années, va être donnée une version, là aussi je vous laisserai préciser ma question, et la manière dont je définis cette présentation, cette monstration donc du labyrinthe du temps, sous une forme donc en public, donc là avec, j'imagine, des musiciens, j'imagine de nouveau une projection, mais voilà, j'étais assez curieux de vous demander justement quelles seraient les plusieurs différences clés entre la version installation et la version musique jouée. Quoi. Voilà. Oui. Encore une fois, compléter si je dis si je nomme mal.
Non, pas du tout. Alors en fait, nous en sommes à un stade de réflexion concernant la réalisation. L'œuvre a été, maintenant on peut dire, écrite pendant 10 mois. Ça représente 1700 heures de travail, donc un travail assez colossal. Et elle va être réalisée, d'après ce que je comprends aujourd'hui, en plusieurs moments avec les partenaires. C'est-à-dire qu'on va pratiquement mettre même 2 ans pour la réaliser. Donc ça, c'est un nouveau regard même par rapport aux dates qui ont été proposées. Ce sera là probablement plus sous forme d'une présentation avec des extraits, sachant que l'œuvre qui est écrite aujourd'hui, les programmes qui ont été réalisés, les questions visuelles, s'intègrent un peu dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vraiment cette finitude et cet aspect infini du temps. En d'autres termes, comment ça se traduit précisément? Ça veut dire que dans un processus d'installation très lent, à des multiples échelles, s'intègrent des processus de performance. Que décide l'ordinateur? Vous voyez un peu, là aussi, du coup, ça renouvelle complètement la notion de concert, et justement, le concert qui serait calé entre 21h et
la
fonctionne
de,
plus trop.
De durée.
Exactement. Et voilà, c'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment à une réalisation de Stellar Wave d'ici 2 ans par rapport à ce qu'elle a vraiment été. Enfin, la façon dont ça a été pensé, sachant que là, je pense que ce sera des moments de présentation avec quelques extraits. Maintenant, le travail existe, hein, il reste à le mettre en œuvre,
et
ce qui n'est pas simple.
Et à le donner aux visiteurs, cette fois-ci, non plus dans une version, on va dire, muséale, mais une version, là, pour le coup, dans le cadre du film, d'un festival,
voilà.
Ou simplement d'un concert.
Voilà.